Mémoire vive,
présentée par Eve Cheftel et préparée par Rachel Rimmer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Bonjour, cette semaine nous avons le plaisir de recevoir de nouveau Catherine Cocchio pour son livre de référence, La littérature en suspens, sous-titré Écriture de la Shoah, le témoignage et les œuvres. La semaine dernière, nous avons évoqué avec vous les différents paradigmes qui se sont succédés en Europe de l'Ouest et de l'Est à propos des textes rendant compte de la catastrophe. Paradigmes qui ont engendré des interdits, interdits de littérature, interdits de fiction, qui ont engendré des hiérarchies, des canons, au risque de condamner à l'oubli des œuvres magistrales, mais qui avaient le défaut d'être trop originales ou à contre-temps. Nous allons aujourd'hui nous pencher sur quelques-unes de ces œuvres témoignages, dont certaines donc, ont été ignorées ou parfois mal comprises, et déchiffrer, je vous cite, leur idiome unique pour tenter de saisir leur puissance de pensée et d'imagination critique. La deuxième partie de votre ouvrage donc, est consacrée à, une dizaine de monographies, si vous permettez l'expression, d'une dizaine d'auteurs, David Rosset, Charlotte Delbault et Jean Carroll pour les déportés politiques français, trois auteurs juifs qui sont Piotr Horavitch, Jean Améry et Imre Kertész, et enfin deux auteurs qui furent enfants pendant la guerre, Georges Arthur Goldschmidt et Aaron Appelfeld. Et il y a également d'autres auteurs comme Etil Zoom qui sont largement évoqués. J'aimerais savoir ce qui vous a guidé dans le choix de ces auteurs. Pourquoi eux et pas Primo Levi, par exemple, hein, bien sûr, dont vous parlez, mais que vous avez choisi de traiter brièvement, vous dites, et de biais.
Ouais. Voilà. Bon, c'est aussi parce que j'avais publié par ailleurs sur Primo Levi davantage. Je m'étais dit que je, plutôt que de revenir, et puis Primo Levi est très commenté, en fait, c'est l'un des plus commentés. Aujourd'hui, il y a quelque chose de très subjectif hein, dans ces choix. Ce sont des auteurs que j'aime, que je trouve importants et important aussi à relire sur un mode critique aussi pour essayer. C'est aussi des auteurs que souvent je comprends mal ou des textes qui m'ont posé problème à leur première lecture, comme celui de David Rousset, l'univers concentrationnaire. Justement, lorsqu'on sort de la lecture de Si c'est un homme de Primo Levi, comme c'était mon cas lorsque je l'ai lu, on est tout à fait étonné, voire rebuté par un langage extrêmement riche de métaphores où se multiplient les formes de religiosité, hein, des allusions aux mythes, aux contes, donc des figures véritablement sacrées pour évoquer le monde du camp. Et c'est justement cette énigme hein, qui m'a retenue chez Rousset, que j'ai essayé vraiment de creuser à fond en essayant de comprendre pourquoi aussi, pourquoi se jouait ce rapport au mythe aussi dans la notion qu'il utilise constamment d'intimité du camp. Hein, il y a une profondeur intime, le camp est une espèce de monde mystérieux, profond, intime, avec des plis et des replis. Et cette profondeur, c'est à la fois la profondeur abyssale du nazisme hein, dans sa cruauté, et c'est aussi la profondeur du monde en tant que monde, justement, c'est-à-dire aussi système de relation entre des êtres qui vivent et qui tentent de résister. C'est aussi l'évocation de la résistance, par exemple. Donc voilà, ce sont des textes qui résistaient pour moi et que je voulais essayer de comprendre, et en particulier comprendre cette question du rapport au mythe, de la possibilité d'un recours au mythe, sous quelles conditions, pourquoi faire, etc. Et ça, c'est quelque chose qui compte pour Rousset, mais qui compte aussi à sa manière pour Delbault, hein, qui reconstitue une parole poétique extrêmement forte, pour moi en tout cas, un chant véritablement, hein, qui tente une catharsis, hein, mais là encore une catharsis sous conditions très particulières, avec l'univers de la tragédie à l'horizon, mais qui ne peut pas être reconduit de la même manière. Et puis Kérol, il y a aussi cette question du mythe, avec son fameux personnage du Lazaréen, hein, le revenant, le ressuscité, qui n'est pas le ressuscité chrétien, qui est le revenant des camps, hein, et qui voit double, qui vit double, et qui donc et dont l'ombre se répand sur l'ensemble de la réalité. En fait, toute réalité devient en quelque sorte étrange et susceptible justement d'être relue à travers le mythe. C'est ça qui m'a, et à la fois ça m'a retenu, parce que la question du mythe est une question délicate des contraintes du nazisme, mm-hmm. hein, puisque ce qui s'est passé, c'est justement aussi une espèce de littéralisation de certains mythes extrêmement dangereux. Donc c'est la reprise critique et ludique, poétique, hein, du mythe qui m'a intéressée là. Et puis alors pour les autres, les trois auteurs juifs, Ravitch, Améry et Kertész, je crois que justement ce qui m'a retenu dans ce choix, c'est que chacun des trois sont ce que j'appelle des caractères destructeurs. En revenant sur la figure, c'est une formule de Walter Benjamin, qui est un auteur qui m'est cher. Et le caractère destructeur, dit Benjamin, c'est celui qui se tient sur le front de la, qui transmet en fait, hein, mais sur le mode de la liquidation. Donc qui, par des gestes négatifs, procède néanmoins à la transmission. Une espèce de paradoxe dans la manière de reprendre ce qui a précédé. Et ce qui a précédé, pour les uns et les autres, c'est très différent. Pour Ravitch, c'est en grande partie justement ce messianisme juif, hein, qui lui était familier de par son, en même temps que toutes les lumières juives, hein, de par son existence à Lvov. Pour Jean Améry, c'est la modernité autrichienne, c'est le nihilisme européen, hein, y compris Nietzsche. Et pour Kertész aussi, hein, qui d'ailleurs hérite aussi d'Améry, il y a aussi toute la tradition allemande, le roman d'apprentissage, etc. Donc comment ces auteurs-là, hein, à la fois se tiennent sur ont des discours souvent extrêmement pessimistes, hein, très justement désillusionnés et activement, hein, qui agissent, hein, qui veulent désillusionner, mais qui procèdent néanmoins à une forme de transmission et qui, même pour Améry, je dois dire, malgré le côté suicidaire de la personne, hein, ou d'ailleurs aussi pour Ravitch, essaye de sauver véritablement quelque chose qui relève de la vie juive ou de la vie de l'esprit, hein, disons, pour ils n'ont pas le même langage les uns et les autres. Et puis pour les auteurs de la fin du livre, hein, Goldschmidt et Appelfeld, alors là, ce qui m'a vraiment intéressé, c'est de comprendre, et là aussi, c'est en rapport profond avec la question du mythe, hein, que je relis à travers Hans Blumenberg, un des grands philosophes du mythe, c'est de comprendre comment ils ont créé un mythe, un grand mythe, celui d'une langue des enfants. Bien sûr, il y a eu une langue des enfants, une langue des enfants réelle, que j'analyse aussi dans leurs journaux, hein, à la toute fin du livre. Mais il y a eu aussi ce mythe, cette poétique d'une langue des enfants, qu'ils ont créée en se remémorant, eux, adultes, devenus adultes, l'expérience qu'ils avaient vécue enfant, hein, expérience très différente dans un cas et dans l'autre, hein, bien sûr, chez Goldschmidt et Appelfeld.
Et infra-langagière, enfin presque antérieure.
Exactement,
au langage.
Voilà. Donc c'est ce moment, cette frontière entre le mutisme, hein, de l'infance, hein, et celui qui n'a pas la parole, et qui en plus ne peut pas l'avoir, qui la perd même complètement au moment du pire, hein, mais qui précisément par cette expérience, il y a quelque chose d'assez justement mystérieux, c'est pour ça que je parle aussi d'un mythe, hein, se retrouve apte, plus apte même, c'est ce que dit Appelfeld en tout cas, hein, à aller directement à une écriture poétique. Hein. Il y a donc l'enfant comme origine même du poétique est capable au fond de produire une contre-langue, c'est une expression qu'utilise aussi Goldschmidt, mais il n'est pas le seul d'ailleurs. Et voilà, ce qui m'intéressait, c'est pourquoi ces deux auteurs, malgré leurs très grandes, très profondes différences, se retrouvent dans ce mythe, à mon avis, assez apparenté chez l'un et chez l'autre, à partir d'une expérience qui n'est pas seulement celle d'un enfant persécuté qui a dû se cacher, fuir, traquer, etc., mais qui est celle du changement de langue, l'apprentissage d'une autre langue après la guerre. L'hébreu pour Appelfeld et le français pour Goldschmidt.
Ils doivent renaître dans une autre langue, hein, en quelque sorte.
Voilà. Alors Goldschmidt, c'était dès la guerre, puisqu'il a été caché. Hein. Et donc c'est ça, c'est la renaissance par une autre langue, dans une autre langue, qui leur fait, à mon avis, toucher des régions extrêmement délicates à penser, complexes, qui les fait revenir à un certain langage du mythe. Mais évidemment, un mythe qui n'est plus le langage propice à l'idéologie, mais qui est le langage dont parle justement Hans Blumenberg, puisque Blumenberg prônait en fait, hein, revendiquait le langage du mythe comme un langage, il voyait une deuxième liberté, une liberté possible dans un deuxième usage du mythe, un usage dégagé du religieux. Et je pense que c'est de ça qu'il s'agit, en tout cas pour Goldschmidt, qui est un esprit des Lumières, fondamentalement. Pour Appelfeld, c'est beaucoup plus compliqué, puisqu'il reprend à sa compte toute la tradition du messianisme juif qui est passée pour lui par Scholem, l'enseignement de Scholem en Israël. Donc c'est plus complexe. Mais il y a aussi donc création, ce qu'il appelle la légende. La légende, hein, donc une légende intime, hein, ce que Ravitch appelle une légende noire à propos de Dany Lokis, hein, et donc c'est justement des expériences enfantines qui font toucher au plus près de cet élément de terreur, qu'il y a au cœur de ces légendes de la survivance. C'est ça qui m'a intéressée dans, ce choix de ces deux auteurs. Et il y a aussi Cordelia Edwardson, enfin il y en a quelques autres que j'évoque plus brièvement dans ce chapitre-là.
Alors justement, vous en avez parlé un petit peu au début, mais comment arriver à faire tenir ensemble justement cette exigence de vérité, de transmission, de témoignage qui est centrale dans ces textes et le recours au mythe. Vous revenez longuement sur la notion complexe de témoignage et vous posez que le témoignage est un acte et non un genre. Qu'est-ce que vous entendez par là, un acte et non un genre?
Oui, ça c'est un moment un peu réactif de ce livre puisque on assiste aujourd'hui à une tendance bon, qui n'est pas partagée de tous, hein, qui consiste à présenter le témoignage comme un genre. On parle de genre testimonial, on parle même de genre littéraire et on le fait en fait à partir de l'étude de certains corpus qu'on délimite à l'avance. Au fond, en restreignant déjà les critères hein, de définition de ce qu'on va appeler le genre. Hein. Et donc, justement, c'est surtout le modèle d'abord du récit de déportation du type Primo Levi, c'est-à-dire très sobre, dépouillé, dense, distancié aussi, sans effets littéraires marqués, hein, ou le moins possible. Hein. Mais c'est aussi la lecture qu'a fait Norton Crewe des témoignages de la Première Guerre mondiale. Hein. Et Norton Crewe avait une exigence d'authenticité, donc il lui a fait faire la guerre en fait à tout effet littéraire et à mon avis commettre des erreurs assez profondes de lecture des textes littéraires, même si son livre Un témoin en 1929 a quand même une importance considérable. Mais à mon avis, on ne peut pas absolutiser ces propos-là, ces discours-là, parce que ils sont pris dans une certaine époque, dans une certaine culture, et on ne peut pas lire, par exemple, du tout les chroniques de Ghetto ou Leigh Brochman à partir de la grille de lecture de Norton Crewe. C'est complètement impossible. Donc voilà, il y a cette tendance à faire du témoignage un genre, alors que, très clairement, on a témoigné. Et c'est l'évidence, hein, lorsqu'on lit la multitude de textes, hein, ce continent, comme vous l'avez dit, ou cette forêt, justement, pourquoi il y a une forêt? C'est aussi parce qu'il y a une multitude de genres, de codes utilisés selon les cultures.
Ce que vous voulez dire, c'est qu'on peut témoigner aussi en écrivant la fiction, en fait.
Exactement. Alors,
on
évidemment.
Peut témoigner même en recourant au mythe.
Évidemment.
D'une certaine façon.
Voilà, mais ça modifie bien sûr le contrat de vérité. Mm. Ça ne veut pas dire du tout qu'on le quitte. Ça veut dire que l'engagement à dire le vrai va passer par la recréation d'un monde. Et donc, les règles vont devenir celles d'un jeu littéraire. Ça ne veut pas dire du tout que l'engagement à dire le vrai est abandonné. C'est ça le grand malentendu, en fait. Hein. Donc, évidemment, ça n'est pas un témoignage au premier sens du terme. Mais dès lors que... Alors, quand on lit ces textes, justement, qui sont parfois des fictions ou des poèmes hein, écrits par les survivants ou même par ceux qui ont vécu pendant hein, les événements eux-mêmes, ben, on, de toute évidence, ce sont néanmoins des témoignages. Donc, c'est la polyvalence, en fait, de ce mot témoignage, la pluralité de sens qu'il peut gagner, alors même qu'à mon avis, il faut lutter contre la dilution du sens de ce mot. Lorsqu'on parle, à mon avis, par exemple, de passage de témoin, de témoin de témoin, et que toute fiction d'aujourd'hui qui porte sur la Shoah se présente comme, au fond, une forme de témoignage, parce qu'on est témoin de témoin et témoin de témoin, c'est un modèle, pour moi, chrétien, apostolique, qui est extrêmement discutable et qui, à mon avis, on est... De pente, de roue libre là, dans ce domaine-là, là où moi je m'oppose beaucoup à ça. Et c'est aussi pour ça que je reviens, alors qu'on parle beaucoup de post-mémoire aujourd'hui, je reviens à ces textes-là qui, à mon avis, nécessitent absolument qu'on y revienne avec beaucoup de précision, justement dans les lectures aussi herméneutiques, philosophiques. C'est pas du tout un moment dépassé, à mon avis, de la réflexion. Au contraire, ce sont des textes qui sont extrêmement précieux parce qu'ils sont allés, je pense, très loin, très profond dans l'analyse de ce qui s'est passé de radical et de la manière dont on peut ou pas dépasser ce moment-là hein, dans l'histoire de l'humanité, au fond. Hein. Je ne sais pas si je vous ai bien répondu, en fait. Je dis le témoignage est un acte. Mmh. Voilà, ce n'est pas un genre parce que c'est transgénérique. Voilà, il y a un acte qui consiste, alors c'est un acte complexe ici, c'est pas seulement dire le vrai et s'engager à dire le vrai, c'est dire le vrai comme engagement à l'égard des disparus.
C'est un serment, vous dites.
C'est un serment de vérité, mais aussi de c'est une forme aussi de deuil, hein, de commémoration des disparus. Et la vérité vaut pour les disparus. Donc, on s'engage à l'égard des disparus et non plus à l'égard de Dieu, comme le témoignage traditionnel, qui était au fond juridico-religieux, le faisait.
comme vous dites, je rebondis sur le mot de deuil, puisque vous dites à un moment, je trouve que c'est très juste, que ces textes sont des rites intimes, à la fois véridictionnels et funéraires. Et ça, ça nous renvoie à Charlotte Delbault et sa reprise du mythe d'Antigone, comme si elle-même, en fait, elle était une Antigone qui donne une sépulture en prenant la poussière dans ses mains, comme ça, donne une sépulture aux hommes, puisque c'est le titre d'un de ses livres, Les Hommes.
Alors à la fois, elle ne peut pas le faire justement. Oui. C'est-à-dire, ce qui se passe à Auschwitz, elle l'a dit clairement, c'est que les personnages de théâtre, y compris ceux de la tragédie, disparaissent.
Elle ne peut le faire que par le livre, justement, peut-être.
C'est ça. Donc c'est le champ poétique qui va permettre ou pas, puisque c'est une espèce de combat contre l'impossible. Elle dit dans certains poèmes, essayez pour voir. Voilà, c'est une des formules. C'est-à-dire qu'elle montre au lecteur des choses qu'il n'a absolument pas envie de voir. C'est des connaissances inutiles, c'est un livre terrible. Mais c'est précisément seul le rythme, le chant, cette prosodie incroyable qu'elle arrive à créer, de manière très simple, dans un langage toujours très simple, parvient à reconstituer une espèce de cosmogonie, en effet, sur un mode mythique. Alors le personnage d'Antigone, il est très ambigu, parce qu'à la fois, Antigone n'est plus possible, on ne peut plus enterrer les morts. Et donc, ce qu'elle analyse, ce n'est pas d'ailleurs seulement le chant qui fait acte funéraire, c'est au sein même du camp, et c'est là aussi une des très grandes beautés de cette œuvre, de repérer dans les gestes des femmes en particulier, des gestes de substitution, des gestes qui se sont substitués aux gestes de deuil qui étaient désormais impossibles. Donc une certaine tendresse, c'est pour ça que je parle de la tendresse d'Antigone, qui prend un aspect au fond presque de gestes funéraires, qui ne peut pas s'accomplir et qui s'accomplit néanmoins par des sourires, par des caresses, sur une lame qui coule chez une amie. Donc il y a cette amitié féminine, évidemment, qu'elle avait vécu dans elle à Birkenau, qui n'était pas le cas de tous.
Dernière question. Malheureusement, on ne pourra pas aller plus loin. Est-ce qu'on peut soutenir que ces auteurs, dans leur volonté de refonder la littérature, ont été en quelque sorte à l'avant-garde de la littérature contemporaine? Je pense à Kérol, l'écriture blanche, à Pérec, bien sûr, à Kertész, et le roman de formation à l'envers, comme vous l'appelez, roman atonal, même à Appelfeld, et ce que vous appelez l'étrangéisation, c'est ce procédé qui consiste justement à donner un écho mythique, en quelque sorte, aux choses.
Oui, l'écho du mythique, c'est une expression de Daniel Lukis. Ouais, c'est pas exactement le mythe, c'est l'écho du mythique, la patine de l'irréel, comme il le dit. Alors en fait, l'expression de refonder la littérature, je l'utilise à propos de ce que dit Pérec dans Thelme, puisque c'est vraiment le propos de Pérec qui dit que ce que révèle en Thelme, la lecture dans Thelme, c'est que la poésie du camp dit la vérité du monde et la vérité de la littérature. Pérec va donc très très loin, donc c'est pour lui, c'est un véritable refondation, en effet. C'est dans les années 60 qu'il dit ça. Tout le monde n'a pas ce discours-là, bien sûr.
D'accord.
Mais il y a en effet... Alors, Kérol, par exemple, en appelle à... C'est plutôt l'invocation d'une littérature nécessaire à un art lazaréen qui va venir et qui ne sera pas seulement celui du témoignage, justement, qui sera une littérature pénétrée, travaillée par ce qui s'est passé. Alors... Pour Kérol, par exemple, c'est ça. Et alors, il ne parle plus d'avant-garde, et je crois que le vocabulaire de l'avant-garde n'est plus possible. Parce que, justement, le vocabulaire de l'avant-garde, c'était un vocabulaire formaliste. C'était l'idée que la littérature obéit à ses propres règles internes, formelles uniquement. Tandis que là, il s'agit en effet de réinventer des règles formelles ou de jouer d'une nouvelle manière des codes et des jeux antérieurs, mais vraiment pour dire quelque chose qui n'a pas été dit, et pour faire cette espèce de retournement vers la vie, cette espèce de retournement même du nihilisme, c'est-à-dire que toute cette littérature, au fond, réactive, au contraire qu'elle ne dirait adieu, disons, réactive la fonction, je dirais presque vitale, biologique de la littérature. Et c'est ce qu'on voit dans les textes qui s'écrivent au moment même de ce qui se joue de pire. Et longtemps après, il y a une réactivation des valeurs presque vitales de l'art. C'est aussi un des enjeux pour moi dans ce livre de montrer ça. C'est aussi une littérature qui parle d'avenir, beaucoup, de vie.
On trouve chez Kertész, de manière, on va dire, particulièrement aboutie, l'accord enfin réalisé entre, on pourrait dire, la forme et le fond. Ce n'est pas des mots que vous employez, à travers notamment cette notion de roman atonal.
Roman atonal, oui.
Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot avant de...
Ouais, c'est une histoire très... En peu de temps, c'est très difficile, parce que vraiment, c'est... Alors, à mon avis, en effet, Cartes est un des auteurs les plus conscients, hein, et les plus malins aussi, les plus joueurs, les plus doués, extraordinairement talentueux dans l'usage de la langue. J'aurais tellement aimé le lire en hongrois, puisqu'il dit lui-même que, voilà, que la langue hongroise, c'est le bonheur de son existence. Et donc, il y a ce talent, et puis il y a cette extraordinaire intelligence critique. Pas au plan politique, pour moi, c'est pas du tout un esprit politique, mais dans tout ce qu'il dit, par exemple de la catharsis comme nécessité, donc catharsis qu'il n'utilise pas dans un sens strictement esthétique, mais anthropologique, je dirais. Il y a une nécessité donc de catharsis au sens où il faut se confronter à ce fameux point zéro pour retrouver des forces créatrices. Et faire un roman atonal, c'est ça. C'est-à-dire, tous les tons ont été pris dans l'histoire culturelle européenne, au fond, parce que c'est de ça qu'il part, hein, c'est vraiment l'Europe, son histoire à lui. Tous les tons ont été pris, et donc ce qui s'est passé, ce qui s'est joué pour chaque individu est d'une telle nature qu'on ne peut plus qu'écrire un roman atonal.
Vous le dites d'ailleurs très bien, l'idée d'atonalité, d'une part, et le modèle sériel de l'autre, hein, emprunté à la musique dodécaphonique, lui ont permis de donner forme systémique au monde total du camp qui prive le sujet de destin. Et vous dites bien qu'il a réussi à faire coïncider le système d'Auschwitz avec un système d'écriture analogique.
Il avait une
mimésis parfaite.
Exactement. Alors, une mimésis, ça fait assez abstraite, en fait. Mm. Ce qui est assez frappant, c'est que dans son premier texte, Être sans destin, il y a quelque chose qui semble se passer, en fait, vraiment à ras de terre, exactement tout près de l'expérience qu'il a vécue, lui, enfant, à Auschwitz et Buchenwald. Et pourtant, cette manière d'écrire qu'il a mûri pendant très longtemps, hein, puisque le livre n'est paru qu'en 1975, est issue d'un très, très long travail de maturation et de réflexion pour la bonne forme. Il avait écrit trouver la bonne forme, cette forme justement atonale qui est extrêmement ironique, qui est implacable, extrêmement puissante justement parce qu'elle a une forme de distanciation, mais qui n'en rend compte que plus aigu tout ce qu'il y est raconté. Enfin, cette ironie de Candide à Auschwitz est vraiment extrêmement, elle est riche de résonance, c'est-à-dire qu'elle dit beaucoup en très peu d'effets. C'est ça qui la rend vraiment puissante, à mon avis. C'est une espèce d'écriture blanche, justement. Et là, on trouve justement ce qu'on a...
Vous dites bien la dette qu'il a à l'égard à Camus. De Camus.
C'est la lecture de L'étranger de Camus qui lui a donné, au fond, un eureka, là aussi, hein, pour écrire, pour trouver le ton ou la tonalité, justement, d'Être sans destin. Ouais.
Parce qu'en fait, tous ces auteurs sont à la recherche de la forme, en fait, vraiment, qui pourra réunir, assembler, rendre compte de cette expérience...
C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement justement de rendre compte de l'expérience, mais de recréer un monde. C'est pour ça qu'il y a ce processus d'abstraction, le système d'Auschwitz, comme il dit, qu'on va remimer par la langue, recréer un monde. Et c'est ça ce qui est spécifiquement littéraire là-dedans. Et c'est aussi sans doute que si j'ai choisi ces auteurs, c'est qu'à mon avis, chacun, il recrée un monde, leur monde, qui est extraordinairement riche à mes yeux. Celui d'Étille Le Soum y compris, sauf que c'est une œuvre qui est en grande partie virtuelle, puisqu'elle a disparu évidemment trop tôt pour pouvoir écrire le livre, qu'elle n'a cessé d'écrire virtuellement. Elle a tout constamment parlé d'un livre à venir, d'un livre à écrire, qu'elle n'a pas pu écrire, mais qui est en quelque sorte là, en filigrane déjà, dans ses extraordinaires lettres de Westerbork, oui.
Merci Catherine Cocchio.
Merci.
Je rappelle le titre de votre ouvrage, La littérature en suspens. C'est un très bel ouvrage, plein de réflexions subtiles et une plongée dans les textes aussi qui donne envie de lire ces auteurs. Merci. Et c'était Mémoire vive. Deux adresses pour nous retrouver. www.radio-rcj.info, www.mémoirevive.net. À dimanche prochain.